France Inter.
Réalisatrice et productrice engagée, Julie Gayet fait un grand écart dès le début de sa carrière en passant d'une apparition dans la série Premier Baiser à de petits rôles chez Costa Gavras et Kieslowski. On la voit ensuite aux côtés de Michel Piccoli dans Une curiosité d'Agnès Varda, Les 101 nuits de Simon Cinéma, puis dans le premier rôle féminin de la comédie Delphine 1, Yvan 0 de Dominique Farrugia. Évidemment, je ne cite pas tout. Sa prestation dans Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier lui vaut le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Sa carrière au cinéma est prolifique et on l'a aussi beaucoup vue à la télévision, notamment dans la série 10%. La cofondatrice avec Delphine Paul du festival Sœurs Jumelles à Rochefort a plusieurs cordes à son arc. Elle a coproduit le film d'horreur Grave de Julia Ducorneau et réalisé la série documentaire Cinéaste. Elle vient de réaliser avec Mathieu Busson le téléfilm Olympe, une femme dans la révolution, qui a été diffusé lundi dernier sur France 2 et toujours disponible en replay sur la plateforme France TV. Julie Gayet y tient le rôle titre, celle de l'icône féministe Olympe de Gouges, rédactrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et pas uniquement comme vous le verrez. Le film a déjà remporté les suffrages du public dans différents festivals et vous fera bénir le fait d'être au XXIe siècle, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Julie Gayet.
Bonsoir. Qui a composé cette musique merveilleuse ?
Flavien Berger.
Ah, mais alors vraiment, bravo Flavien, moi j'adore.
Oui, bravo Flavien, il l'a fait exprès pour cette émission.
Très très beau.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
La musique de l'émission d'Eva Bester.
Ah bah écoutez, mais c'est la meilleure réponse.
Qu'est-ce qui m'a enthousiasmé ? Cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris.
Ah oui, et ça avait sans doute un rapport, puisqu'il était question d'histoire de France, de révolution.
Parce qu'il était question de sororité, de ce tableau sororité, qui tout à coup est apparu au milieu de ces très beaux tableaux, avec ces statues qui sortaient de la scène et ces 10 femmes en or. Et je dois avouer que de voir Olympe de Gouges sortir la première, évidemment, c'était enthousiasmant. Mais aussi de se dire que c'était la première fois, et c'est historique, que les Jeux Olympiques étaient paritaires et qu'il y avait autant d'hommes que de femmes, qui était ce fameux combat d'Olympe de Gouges, et de me dire, ben voilà, il a fallu toutes ces années, ces siècles pour y arriver, en tout cas dans le sport. Après, sur l'égalité salariale, on a encore un peu de chemin à faire.
Oui, et dans d'autres champs aussi, hélas.
D'autres champs, dans le sport aussi.
Oui.
Mais on avance. À Rio, c'était les règles, qui est un tabou énorme de notre société, qui avait été évoqué par une sportive chinoise, qui avait dit qu'elle n'avait pas fait des si bons résultats parce que elle avait des problèmes avec des règles abondantes. Et là, tout à coup, c'était la couverture de L'Équipe, la couverture de Courrier International sur les règles. Donc ça avance.
C'est-à-dire qu'on se rend compte que les femmes ont des particularités.
Voilà. Et que c'est maladies comme l'endométriose, on en entend un peu plus parler. Enfin voilà, tous ces sujets.
Pour laquelle vous êtes engagée d'ailleurs ?
Je me suis engagée assez tôt aux côtés d'Imani et d'une Chrysoula Zakharopoulou qui est gynécologue, obstétricienne et qui m'avait parlé de cette maladie. Moi je suis fille de chirurgien, pas touchée, mais j'ai été frappée par le temps de diagnostic qui explose tous les records de 7 ans et demi en moyenne. Les femmes peuvent vivre 15 ans donc avec une maladie sans savoir ce que c'est. Et à l'époque, on s'était dit qu'on ferait diminuer ce temps de diagnostic. Bon, on est passé de 7 ans et demi à 7 ans et quart, donc on ne peut pas dire que ça fonctionne encore tout à fait. Mais j'avoue que quand je vais dans les collèges, lycées, et là récemment avec Olympe de Gouges, j'ai sillonné la France et la région Occitanie, quand je parle d'endométriose, malgré tout, je vois que quand même certaines lycéennes connaissent.
Vous êtes habillée tout en noir et vous avez un petit ruban rose pâle.
Alors, il est blanc.
Blanc.
Mais ça, c'est parce que
c'est parce qu'on est dans le rouge du studio.
Rec, ouais, oui, du studio qui fait ça. Alors, les rubans blancs, c'est un ruban qui a été désigné par des hommes. C'est une initiative au Québec après un massacre terrible qui a eu lieu en 1989 à Polytechnique au Québec, où un homme est rentré, a demandé à tous les hommes, un garçon, et à tous les hommes de se baisser, et il a il a tué toutes les femmes, toutes les chercheuses qui étaient là de Polytechnique. Il avait écrit tout un texte pour expliquer ce geste. Donc d'abord, je pense que pour les hommes, c'était de se dire comment ils avaient pu se baisser, mais comme ça, voilà, pris par cette horreur. Et ensuite, de comprendre qu'il y avait donc un acte réellement visant à la raison du sexe, les femmes. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les féminicides, mais à l'époque, il n'y avait pas ce terme. Et ils ont dit que le ruban blanc, donc ils ont fait une grande marche blanche, et ils ont dit, les hommes, que le ruban blanc représenterait les violences faites aux femmes à raison de leur sexe.
On a commencé directement cette émission par parler de couleurs, par parler de sang, le sang criminel, le sang naturel. Vous avez fondé plusieurs sociétés de production, Julie Gaillet, et la première c'était Rouge International.
Mais voilà.
Pour avoir quelque chose de féminin, mais pas pour des raisons aussi dramatiques que celles qu'on vient d'évoquer.
Non, oui. En tout cas, engager le rouge dans l'idée aussi de la couleur, j'allais dire le moulin rouge, mais aussi le vernis à l'ongles rouge. Enfin, il y avait plein de raisons à ce rouge international quand on a choisi ce nom pour la société de production. Mais c'était l'idée de produire des films pour l'international, à l'international, engagé. J'ai l'impression en tout cas que de faire des films, c'est un engagement et c'est le choix d'un film ou... C'est difficile parce qu'on parle beaucoup de politique, souvent. Et je dis que je ne fais pas de politique, je fais des films, mais tous les films sont politiques.
De toute façon, on peut faire des gestes politiques sans faire de politique.
Même un geste poétique est un geste politique, dirait Agnès Varda.
Oui, c'est très proche. Vous disiez déjà sur France Info en 2019 que ce n'était pas facile d'être une femme et de produire. Est-ce que les choses s'améliorent peu à peu?
Doucement. Très doucement.
Vous faites partie du collectif 50-50 aussi.
Oui, ça avance, ça a avancé, surtout sur la question des violences aussi, de faire attention maintenant, de prendre en compte, d'avoir des référents sur les tournages, de se dire qu'on a mis en place...
Les corps d'intimité.
Alors ça, c'est pour les actrices et c'est pour les scènes et les acteurs, mais tous, hein, pour tous les acteurs... Le coordinateur d'intimité, c'est un peu comme le coordinateur de cascade. C'est vraiment pour que la discussion autour de ces scènes d'intimité qui sont aient lieu avant, puisse être un peu encadrée, qu'on puisse se dire que voilà, on n'impose pas devant toute une équipe qui attend à un jeune comédien ou à une jeune comédienne de faire des choses qu'il n'aurait pas souhaité faire. Parce que c'est ça, cette pression insidieuse. Et puis parce que c'est sain aussi d'en parler, de se poser des questions. Après, moi, ça me fait rire, je donne l'exemple souvent. Mais un jour, j'avais un réalisateur qui était très mal à l'aise avec l'idée de cette scène d'amour qui arrive sur le plateau. Qui fait, bon, qu'est-ce que tu... Et là, toi, Julie, qu'est-ce que tu ferais? Alors, je regarde, j'écoute, je fais l'amour de plein de façons différentes. Mais là, il ne s'agit pas de moi, mais du personnage. Et de qu'est-ce qu'on veut raconter dans cette scène. Il fait, oh, pardon, t'as raison, excuse-moi, je suis désolée. Mais il était tellement mal à l'aise que... Donc voilà, c'est juste cette idée aussi de se poser la question de ce qu'on veut raconter à ce moment-là et pourquoi il y a évidemment les retrouvailles, évidemment de l'amour, mais pas que, il y a tellement de choses qui peuvent se jouer. C'est comme dans les scènes de cascade et d'action.
Avez-vous déjà souhaité être un homme ?
Mais je suis un peu homme et femme.
Genre, on l'est tous.
On l'est tous un peu, donc il y a des jours où je suis un peu plus que d'autres. Mais oui, quand j'étais jeune, je jouais au foot. J'adorais ça. Et en cours de récréation, les garçons ne voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais une fille. Et ce qui est quand même vraiment super dégueulasse. Et je ne savais pas à l'époque qu'il y avait déjà du foot féminin. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup milité et produit un documentaire avec Christy Molia, avec qui on produit Olympe de Gouges, sur la Coupe du Monde féminine, des portraits... des joueuses.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Citoyenne, qu'est-ce que tu faisais à Tours ?
J'ai déjà répondu à cette question.
Réponds à nouveau.
Je rendais visite à mon fils, Pierre Aubry, qui était soigné après avoir été blessé. Il combat dans l'armée de la République.
Pourquoi es-tu revenu à Paris ?
J'avais des affaires à régler.
Comme cette affiche.
Citoyen, vous quittez un vilain. Je suis enfermée ici depuis 2 jours. Sans eau ni nourriture. couverture, sans linge propre, et avec un garde qui partage ma cellule jour et nuit. Peux-tu enfin me dire pourquoi j'étais mise au secret ?
Ta publication contient des idées contre-révolutionnaires. Leur diffusion est un acte de haute trahison.
Il n'y a aucun propos anti-révolutionnaire dans cette affiche.
Tu proposes le retour à la monarchie ?
C'est faux. Je propose au peuple français de choisir le type de gouvernement qu'il préfère. En quoi est-ce un crime ?
La République ne peut pas être remise en cause. Tu as calomnié plusieurs députés. Tu as dévié, citoyenne.
Je crois être restée droite, au contraire. Tout le monde ne peut pas en dire autant.
Ah oui. Les fameux mots de l'âme de gauche. Je connais ta réputation, citoyenne, de...
De femme qui sait lire et écrire. De femme qui pense. Qui ose parler.
Julie Gayet, on vous entend dans le film que vous avez réalisé avec Mathieu Busson, Olympe, une femme dans la Révolution, toujours visible sur la plateforme France TV, consacrée à la pionnière du féminisme Olympe de Gouges, guillotinée en 1793, après s'être opposée à Robespierre. Qu'est-ce qui vous a amené, après vous être intéressée, toujours avec Mathieu Busson, à Alice Guy, l'une des premières réalisatrices d'un film de fiction, presque, pourrait-on dire ?
Oui, complètement même.
C'est vrai ? Il y avait Méliès aussi, tout de même.
Après Méliès.
Ah oui, les Frères Lumière
En fait, les Frères Lumière ont inventé l'objet caméra. C'est vraiment l'objet. Avec cette idée, comme pour la photo, on faisait des photos, des familles. Enfin, c'était, voilà, la photo, c'était un souvenir qu'on garde, qu'on pose. Mais c'est elle qui va à la fois pousser Gaumont, qui vendait des appareils photo, à aller vers cet objet de la caméra qui était fasciné, passionné, mais en plus qui va dire oh, il faudrait, voilà, comme on le fait au théâtre, des décors, des costumes, raconter des histoires. Donc la fiction, c'est elle qui l'a imaginé, pensé, dit. Et là, en la regardant, on dit, bah, écoutez, si ça vous amuse, voilà, ce truc de jeune fille, lui répond le Gaumont, bah, si ça n'empiète pas du temps sur votre travail... Pourquoi pas ? Et donc, elle s'est mise à faire des petits films comme ça.
La Fée aux Choux, 1893.
Choux, premier film de fiction. Mais c'est aussi l'histoire des femmes. Elle va tomber amoureuse d'un homme qui travaille pour la Gaumont, et elle va se marier, et lui va être envoyé aux États-Unis pour, bah, et tant mieux d'ailleurs, puisqu'ils ont créé Hollywood. Il a lancé le cinéma là-bas. Donc, elle devient de Alice Guy, elle devient Alice Blaché, elle se marie, et pile à ce moment-là, il part, il est envoyé aux États-Unis. Et personne n'a fait le lien, ne faisait le lien entre Alice Guy à Paris et Alice Blaché, qui est partie là-bas. En plus, pour ne pas faire de l'ombre à son mari, elle décide de monter un studio indépendant, la Solax surtout. Donc en plus, elle est productrice indépendante, enfin, elle est incroyable, elle va produire les autres. C'est assez... Et c'est par les gender studies, comme pour Olympe de Gouges, dans les années 50, 60, 70, qu'on va parler dans les livres aux États-Unis d'une Alice Blaché. Et c'est par les Américains, les Américaines, qu'on va mieux la connaître. Et comme Olympe.
Alors justement, vous parliez de son mariage qui a changé son statut ou la façon qu'on avait de l'identifier. Olympe de Gouges naît Marie Gouze et ne veut pas se marier. Mais son père, qui ne l'a même pas reconnu, refuse d'accéder à son désir de ne pas se marier. Elle se marie sans même avoir prononcé le mot « oui ». Mais elle se crée elle-même tout de même. Elle devient très vite jeune fille mère puisque le mari décède.
C'était presque une chance pour elle. Donc elle s'est mariée à 16 ans et elle va être veuve à 17 ans. Et elle va écrire d'ailleurs une pièce, enfin, elle écrit un peu sur elle, comme une espèce de biographie un peu romancée, où elle parle de cette année-là et on voit toute la noirceur de cette... Elle parle pas de viol conjugal, mais enfin on sent quand même que c'est très très dur et très violent et que ça, elle en garde pas un souvenir merveilleux, si ce n'est son fils, puisqu'elle va avoir un fils, un enfant. Et à l'époque, les femmes étaient sous tutelle de leur mari, enfin de leur père toute leur vie, le patriarcat, et elles passaient sous tutelle de leur mari quand elles se mariaient, donc elles étaient des enfants toute leur vie. Voilà, il n'y avait pas la majorité à 21 ans, pas d'émancipation à 18, ou à 21 ans, la majorité était 21 ans. Et en devenant veuve, en fait, elle est libre. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les veuves qui pouvaient aller à l'Assemblée nationale. Donc ça raconte vraiment cette idée de patriarcat, même pour dire aux jeunes, vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de patriarcat.
Il y a là des amours libres.
Ouais.
Alors ce qui est assez remarquable, c'est qu'il n'y avait jamais eu de film qui lui avait été consacré auparavant. Et la première biographie d'elle a été publiée en 1981. Vous relevez même, Julie Gayet, qu'elle fut bien plus étudiée en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis qu'en France.
Oui. Et ses descendants, donc Pierre, son fils, qui Et ben, plus tard, malgré le fait qu'il a renié sa mère comme elle lui avait demandé d'ailleurs, mais qu'il a
pour dû sa sécurité.
Le faire pour sa sécurité, avait été envoyé en Nouvelle-Calédonie. Et lui, ses enfants après lui, sont aujourd'hui en Tasmanie et en Australie, c'est-à-dire loin. Et c'est une petite communauté de Montauban qui est partie faire des recherches et aller chercher des textes dans cette famille loin. Donc c'est même en Australie où on parle d'elle, avant la France. Ouais, c'est assez fou.
Mais elle a son buste à l'Assemblée nationale face à Jean Jaurès aujourd'hui.
Oui, c'est déjà ça. C'est le seul buste de femme à l'Assemblée nationale. Sinon, c'est des belles allégories, des femmes nues qui sont sur les murs. Mais voilà, le seul buste de femme, c'est elle. Parce que c'était vraiment, elle s'est fait guillotiner pour ses idées politiques. Et pas parce que c'était la femme de, voilà, comme Marie-Antoinette ou même Madame Roland, si brillante, tout brillante et avec ses clubs de femmes et ce qu'elle écrivait. C'était quand même la femme du Premier ministre. Elle, c'est pour ses idées politiques. Elle était révolutionnaire et surtout bourgeoise. Elle n'était pas aristocrate non plus.
Alors que vous dépeignez justement, ça commence le jour de l'exécution de Charlotte Corday. Mais elle a commis un assassinat, celui de Marat. Et ce sera donc la première femme guillotinée pour ses idées politiques. Là, je parle d'Olympe de Gouges. Comment vous êtes venue à vous intéresser à elle et quel type de documentation avez-vous brassé?
Mais la toute première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était les romans graphiques de Catel et Bocquet. On parlait d'Alice Guy. Ils ont fait ces romans graphiques, mais vraiment merveilleux, sur Alice Guy, Olympe de Gouges. Et donc, j'ai lu cette bande dessinée roman graphique, je ne sais pas comment on dit, et j'ai plongé, découvert cette femme. Et puis, ça m'a donné envie d'aller lire plus loin. Celle qui a été voilà, comme une révélation, c'est évidemment Benoît de Groult, avec Ainsi soit Olympe de Gouges, où là, je me suis dit, mais c'est fou. C'est-à-dire que je découvre à la fois que c'était une humaniste, vraiment une féministe universelle, vraiment avec cette idée d'être contre toutes les injustices, à commencer par à l'époque, évidemment, c'était sa première pièce de théâtre, c'était contre l'esclavage, avec les Amis des Noirs.
Quel crime avez-vous donc commis?
J'avais un maître qui m'était cher. J'aurais donné ma vie pour lui, mais son commandeur était un bandit. Il a causé notre perte. Il a voulu posséder Mirza, elle l'a repoussé. Il s'en est pris à moi parce qu'il savait que nous nous aimions. Il a voulu m'obliger à la battre. Comme je refusais, il s'est jeté sur moi l'épée à la main. Je l'ai désarmé, je l'ai tué.
Nous nous sommes enfuis sur une chaloupe. Nous avons erré pendant des heures sur la mer avant d'atteindre une île. Ce sont des criminels.
Attends, Sophie. Ils m'ont sauvé la vie. Ils ont sauvé la tienne. Nous avons une dette envers eux. J'irai voir votre gouverneur. Vous disiez qu'il était humain, généreux.
Oui, monsieur, c'est le meilleur des hommes.
Si tous les colons étaient comme lui, nous serions moins misérables.
Il m'a pris à son service dès l'âge de 8 ans. Il sait plus à m'instruire, à m'élever comme si j'avais été son fils. Parce qu'apparemment, avec sa femme, ils n'ont pas d'enfants. Si cela ne dépendait que de lui, j'aurais déjà ma grâce. Mais il faut un exemple à la colonie. Il n'y a point de pardon pour un esclave qui a levé la main sur son commandeur.
Comme nous n'avons pas d'archives de 1788, date où la pièce « Zamor et Mirza » a été créée par Olympe de Gouges et jouée à la Comédie Française trois fois puis enterrée, on l'entend adaptée par Emmanuel Janvrin au Théâtre Vollard en 1988. Et
incroyable.
C'est cette pièce qui vous a vraiment impressionné dans le parcours d'Olympe de Gouges, Julie Gayet.
Ben c'est de découvrir cette intersectionnalité des luttes ou cette convergence de deux combats, puisqu'elle va parler voilà de l'esclavage, notre type d'esclavage, celui des femmes, et évidemment des injustices faites aux femmes.
Mais elle connaîtra l'abolition de l'esclavage en France, pas dans les colonies.
Oui, mais et qui sera remis après par Napoléon, de la même manière que le code Napoléon a remis les femmes à la maison, interdit les clubs de femmes, tous ces clubs qui... Non, c'est... En tout cas, de se dire que cette histoire-là ne nous a pas été racontée, c'est-à-dire de ne pas le savoir, d'avoir moi appris la Révolution française au collège avec des hommes pour des hommes, avec juste, oui, les femmes étaient vues comme Charlotte Corday, oui, ça, on nous parlait de celle qui avait assassiné, on nous disait vaguement, les femmes sont montées à Versailles, bon, et Marie-Antoinette, enfin, très très peu. Or, c'est tellement important de savoir ça, c'est tellement important pour se constituer, se construire, d'où ce que je parle, quand je disais le tableau des Jeux Olympiques pour le monde entier, de voir Olympe de Gouges, de voir ces femmes qui sortent de l'eau, qu'on ne voit pas dans l'espace public, puisqu'il n'y a que 3% des noms des rues en France qui ont des noms de femmes.
La première fut Olympe de Gouges.
La première statue, c'était Olympe de Gouges. Rue. La première rue ?
Il me semble.
C'est pas vrai ?
Il me semble.
Incroyable. Non, ça, je savais pas.
Je vérifie quand même.
Non, j'ai appris qu'à Paris, c'est 19%, et que c'est aussi parce qu'ils ont fait un travail de reféminiser, comme le boulevard Rochechouart, ils ont appelé maintenant Marguerite Rochechouart, parce qu'on ne savait pas que c'était une femme. Mais non, ça je ne savais pas.
Elle était une admiratrice de Rousseau. Elle avait des amours libres, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on voit bien dans le téléfilm que les hommes veulent systématiquement la posséder, ouais, et qu'elle refuse.
Oui, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est comme là, j'ai été beaucoup dans les collèges-lycées. Il y a un petit collégien qui me dit un jour, enfin quand même, elle n'est pas un peu flirteuse ? Et ça m'a tellement... c'est pas possible. Je dis, ah bon, parce que toi, tu penses que dans la vie, tu n'auras qu'une seule amoureuse.
Peut-être.
Et pourquoi les femmes et pas les hommes pourraient avoir... Les hommes pourraient avoir plein de femmes dans leur vie, et les femmes sont des flirteuses, donc, quand elles ont plusieurs hommes.
C'était encore la plus mignonne façon de dire ce qu'ils pensaient, j'imagine. D'autres mots sont bien pires.
Exactement. C'est assez fou de se dire qu'elle a quand même eu cette histoire d'amour en prison.
Oui.
Il s'appelait donc Théodore, après... Je ne sais pas si c'était un beau brun ténébreux comme Pablo Cobo, mais en tout cas...
Qui va l'aider dans la maison d'arrêt. Quels étaient les rapports d'Olympe de Gouges à Robespierre ?
Mais je pense qu'ils ont partagé les mêmes idées, c'est ça qui est fou. Et c'est ça qu'on a essayé de montrer aussi dans le film, c'est de la complexité de cette période, la terreur, qu'on voit peu d'ailleurs dans les films, mais où ils se mettent tous à se tirer dessus, enfin... manière figurative, mais terrible, où ça se tend, et qu'ils partageaient donc à la fois cette idée de vouloir faire changer le monde pour un monde meilleur, contre la peine de mort, pour l'éducation nationale, mais voilà, cette idée que les femmes, à l'égal de l'homme, étaient... c'était une révolution dans la révolution, c'était impossible, et puis surtout, il fallait, donc voilà, c'était pas l'urgence, quoi, ça n'avait pas d'importance.
Le président.
Ça, c'est fou, parce que voilà, il était pour le droit de vote des femmes. Il faudra attendre après la Seconde Guerre mondiale pour ce fameux droit de vote des femmes. Mais de se dire que si la reine avait reçu Olympe de Gouges et avait signé cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, peut-être qu'aujourd'hui, ce serait un autre signal. On aurait eu... Enfin, je ne sais pas.
Mais dans le Danton d'Andrzej Wajda, on voit bien que Robespierre, au début, avait des idées nobles et que le pouvoir lui a fait perdre la tête. Mais le film s'arrête juste avant.
C'est un peu l'idée de la radicalité dans le combat, de vers où on va, comment on va, et de cette question-là qu'on a essayé de poser là. Voilà.
À un moment, le président de la Commune dit à Olympe de Gouges « Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'être coupable pour être condamné. » Est-ce que cela a vraiment changé ?
Ah, c'est beau, vous ayez retenu ça. Ouais, c'est exactement... Ben, disons que dans la période dans laquelle on est, qui est quand même sur la vérité, ce qui est dit et retourné par certains, et même sur la place des femmes hein, aujourd'hui, sur toutes ces questions-là, c'est d'autant plus important de questionner l'histoire et de se rappeler ces moments-là. Mais quand on a fini le film, on s'est dit, alors c'est notre façon de faire avec Mathieu Busson, parce qu'on a fait 3 documentaires sur la place des femmes, à chaque fois on sort d'un film, on se dit, ah non, il faudrait aller plus loin. Là, on est en train de travailler sur la suite, en fait, qui va être la Commune. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à la Commune, après, bon ben voilà, Napoléon, Code Napoléon, il a fallu beaucoup de temps, malgré Flora Tristan, malgré tout ça, c'est à la Commune qu'ils vont relire, ils vont refaire référence à la Révolution française, évidemment, mais que les femmes vont lire la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc c'est quand même passé. Et là, il est question d'une éducation pour les filles et Louise Michel. Donc là, on est sur Louise Michel.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Julie Gayet, vous incarnez Olympe de Gouges dans votre téléfilm Olympe, une femme dans la révolution qu'on peut voir sur la plateforme de France TV. Et l'on se sent béni d'être au XXIe siècle, puisqu'à cette époque, rappelons-le, la plupart des femmes ne savaient ni lire ni écrire, étaient maintenues dans l'ignorance. Elle y accorde une grande importance d'ailleurs, Olympe de Gouges, à la lecture et à l'écriture. Elle encourage ses camarades. Et il y a un moment, cette phrase, c'est l'assistant de la maison d'arrêt auquel on faisait référence tout à l'heure qui lui dit « Aucune révolution ne peut changer la nature humaine ». Est-ce que vous le pensez ?
Alors, si je suis très sincère avec moi-même, je dirais qu'on ne peut pas changer la nature humaine, mais j'ai quand même un espoir où il me semble que... Je ne sais pas comment le décrire, mais je sais que depuis... oh là 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 là, assez intime de parler de ça. Depuis que je suis assez jeune, je suis fascinée par Mandela et la façon dont Mandela a évoqué le fait d'ouvrir sa toute-puissance et de se dire que chacun, malgré tout, de nous, on peut faire bouger les choses. Et je ne sais pas cet effet de papillon, mais c'est comme un modèle dans ma vie où c'est comme une référence du possible d'emmener sur la route, en tout cas de pouvoir lancer un chemin où il y a quand même des valeurs, où on peut opposer, on peut forcer le trait, on peut encourager certains instincts, mais on peut aussi fédérer et faire se surpasser les uns les autres. Oh là là, tout à coup, grosse pudeur, je deviens rouge, jaune, je n'ose pas parler.
Mais c'est exactement le mot, puisqu'Olympe de Gouges a une capacité à fédérer autour d'elle. Mais ce qui est intéressant, et vous le montrez bien dans le film, c'est que ça ne va pas de soi. Et quand elle est dans la maison d'arrêt, au début, elle se fait envoyer balader très violemment par des groupes de femmes qu'elle veut pourtant aider. Et elle écrira elle-même, Olympe de Gouges, dans une pièce, « Les femmes n'ont jamais eu de plus grands ennemis qu'elles-mêmes ».
Absolument. Et c'est une phrase que je cite beaucoup. C'est, elle dit même, quand est-ce que les femmes cesseront de s'opposer les unes aux autres et de médire sur leur propre sexe? Mais c'est vraiment cette idée que les femmes peuvent être les pires ennemies des femmes, mais qu'il ne faut justement pas rentrer dans... Voilà, quand je dis on peut appuyer et continuer de stigmatiser ce, ou dire voilà, c'est un état, ou à l'inverse.
Ensemble, on est plus forte. Le ensemble, titre de votre livre.
On est plus forte. Prenez la sororité. D'où voilà, ce terme qui aujourd'hui est beaucoup utilisé chez les jeunes, donc malgré tout. Et d'ailleurs, à l'époque de la Révolution, c'était liberté, égalité. Il n'y avait pas fraternité, ça a été ajouté plus tard. On aurait pu mettre liberté, égalité, sororité finalement. Non mais plus sérieusement, cette idée de la sororité, c'est ce qu'on a voulu mettre au travers de la prison, justement, pour raconter la sororité, essayer de la transmettre au travers de la fiction. Et c'est pour ça qu'on a le scénario part de la prison, de la fin de sa vie, avec des flashbacks ou des retours en arrière, comme une association, quand on est comme ça à la fin de sa vie ou dans des moments compliqués, on repense à son passé. Ça a été un procédé pour faire rentrer cette vie si riche dans le film, mais aussi de parler de l'enfermement des femmes et de la façon dont on les oppose sans cesse. Puisqu'elle parlait de ça, elle a parlé des vœux forcés, elle a écrit une pièce sur les vœux forcés, Olympe de Gouges. Les femmes qui, quand elles n'avaient pas d'hôtes, on envoyait, ou qu'on avait envie de s'en débarrasser, on les envoyait dans les couvents. Évidemment, sur l'hystérie féminine, mais l'enfermement de tout temps, et même récemment. Quand on écoute Virginie Despentes qui dit que quand elle était jeune, elle était, elle avait 18 de moyenne, quand elle avait 17 ans, elle était au lycée, mais c'est une petite bombe curieuse de tout, du dernier concert de The Cure, de la dernière pièce, et que ses parents ne savaient pas la gérer, et qu'ils l'ont internée en hôpital psychiatrique, elle dit « Mais si j'avais été un garçon avec 18 de moyenne, est-ce qu'on m'aurait enfermée ?» Et c'est ça qui était important pour moi, de parler de l'enfermement, de l'emprisonnement des femmes, et de comment entre elles... Peut-être les choses, si elles se passent différemment, ce que prônait Gisèle Halimi. Le fait que si les femmes se mettent ensemble, on irait, on pourrait, avec beaucoup plus d'harmonie, changer le monde, faire bouger les choses. Ça, j'en suis convaincue.
C'est en 1904 que j'ai connu Louise Michel quand elle était de retour de Nouméa, à Marseille.
Comment était-elle, Louise Michel?
Grande femme, très, très sympathique, puis après, très triste dans son genre, et puis après, quand elle parlait, elle pleurait tout le temps. Et quand elle faisait ses conférences, elle mettait toujours les femmes en avant et les hommes en arrière. Et il parlait aux femmes seulement, en disant que les femmes, c'était eux qui tenaient les enfants et qui devaient donner la bonne éducation. Voilà.
Et quelle sorte de public avait-elle, Louise Michel?
Principalement rien que des ouvriers ou des ouvrières.
L'artiste peintre Jean Galeani, le filleul de Louise Michel, en 1955 sur le RTF au micro de Clara Candiani. C'est simplement pour le plaisir qu'on a voulu diffuser cette archive, Jules Gaillet.
Puisque fabuleux même.
Oui, votre prochain opus sera consacré à Louise Michel.
Avec Mathieu, là on est dessus, Alors c'est très intéressant aussi parce qu'il y a Maria de Rheim, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent à cette époque. Et aussi elle parle de, et c'est les femmes qui ont... qui ont lancé cette idée de l'enfant universel, le droit universel des enfants contre le travail des enfants, la prostitution des enfants.
Est-ce que vous jouerez dedans?
Alors, je n'ai pas joué Louise Michel,
pour... oui,
ça
mais
c'est
c'était
certain.
Pas évident pour Olympe de Gouges.
Mais c'est mon, ça a été d'abord un bonheur fou et vraiment, je remercierai jamais assez Anne Holmes de chez France Télévisions et Mathieu, Christy autour de moi qui m'ont convaincue, qui m'ont dit mais évidemment, mais parce que avec beaucoup de pudeur et c'est insupportable parce que moi je me bagarre avec ça sans cesse, ce syndrome de l'imposteur que j'ai, mais c'est un enfer. Il m'a fallu 10 ans pour monter ma société de production. J'ai toujours à m'excuser. Ah là là, sors de ce corps, s'il te plaît, Julie. Plutôt Olympe, reviens. Parce que quand je jouais Olympe, je me disais, là, j'ai l'impression que je m'affirme plus depuis que je suis en train de la jouer. Parce que comme elle osait tout, elle ne s'interdisait rien. Allez, Julie, maintenant, il faut que tu prennes un peu d'Olympe.
Est-ce qu'elle a imprégné quelque chose en vous qui reste ?
Oui, il y a quelque chose d'assez fort, d'assumer, d'être. D'y aller, d'oser beaucoup plus qu'avant. Donc j'espère que ça, au moins, je l'ai transmis dans le film.
J'ai la main qui tremble de tenir ta main. L'amour nous ressemble, l'amour nous va bien. Mais donne-toi la peine de penser à moi. Mais donne-moi la veine de penser à toi. J'ai le cœur à te regarder, j'ai le cœur en branche, tout en fleurs d'été. Si ma bouche hésite, si je ne dis rien, c'est qu'à dire vite, on ne dit pas bien. Mais donne-toi la peine de penser à moi. Mais donne-moi la veine de penser à toi. J'ai le cœur qui casse lorsque tu es loin. Il te traîne, il se lasse, bat de moins en moins. Mais voici qu'il sombre. Commence notre grand amour et donne-moi la chance d'y penser toujours.
Le standard de ce soir, c'est Anne Sylvestre. J'ai le cœur à l'ombre et vous écoutez la 20e heure sur France Inter. Et voici, Julie Gayet, votre choix musical.
Minuit, une, je sors de mon lit. Je vais pas fermer l'œil de la nuit. Au clair de lune, je cherche la rime et demain me donne le vertige. Moi, j'aimerais écrire une chanson et me lever tôt pour mes enfants. Rappeler la banque pour la maison. Changer les rideaux du salon. Gonfler les pneus de mon vélo. Il faut que je devienne écolo. Aller voir mamie à l'hosto. Le temps l'a rendu moins costaude. Dire à mon homme qu'il se souvienne que ça ne suffit plus que l'on s'aime. J'ai pris 3 kilos cette semaine. Et merde, y a plus de liquide vaisselle. Signer les carnets de liaison. Acheter des légumes de saison. Me réconcilier avec maman, même si c'est pas elle qui a raison. Putain, je vois plus aucun ami. Une tournée, ça laisse du vide. Et puis faut que j'aille voir un médecin. Moi j'ai peur du cancer du sein. Il y a des trucs pourquoi.
Amel Bent, décharge mentale. Pourquoi ce choix, Julie Gayet?
Parce que je l'ai entendu le slammer. Et on s'est rencontrés au travers de la Fondation des Femmes, son engagement et cette idée de charge, mais de finalement décharge mentale, où elle décharge dans cette chanson un peu toutes ces injonctions faites aux femmes. J'ai trouvé ça très très fort. Je dois avouer que ça fait du bien à entendre.
Et je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et vous avez simplement dit, la panacée, aller au cinéma. Quel est le dernier film qui vous a ému, que vous êtes allé voir au cinéma?
L'Attachement.
Oh, de Karine Tardieu, que nous avons reçu récemment.
Quelle chance.
Sur les familles d'adoption.
Oui, pour plein de sujets aussi. C'est aussi sur l'amour, c'est aussi sur cette femme, mais ce jeune homme aussi qui veut l'aimer, mais en fait qui ne l'aime pas. C'est le besoin d'être, que quelqu'un s'occupe de lui, ce rapport homme-femme, peut-être réinventé. C'est tellement brillant, tellement émouvant, attachant, effectivement, le rapport aussi. Dans le roman de Jim, il y a aussi cette question, je ne sais pas si c'est de l'adoption, mais de quand on élève quelqu'un, de comment les liens se créent. Cette chose qui est nouvelle d'ailleurs, pour laquelle Gisèle Halimi s'est battue, c'est le droit des grands-parents ou le droit des beaux-parents aujourd'hui qui sont un peu plus pris en compte, mais de ces enfants qui sont là dans des histoires au milieu et puis qui parfois souffrent des séparations.
L'air de Barberine dans les Noces de Figaro, interprété par Sandrine Piau, accompagnée par l'orchestre de Salzbourg, dirigé par Ivor Bolton. Julie Gayet, c'est cet air de Barberine que vous avez tant chanté, qui vous a donné envie de jouer la comédie, parce que vous vouliez en faire beaucoup plus et on ne pouvait pas chanter et pleurer en même temps.
Vous voyez, elle est trop sage. Moi, j'aime l'idée que... quand
ça déborde.
Mais elle est désespérée. Elle a perdu cette épingle. Donc j'étais complètement dans l'émotion. Et en fait, c'est quand même la qualité. C'est très très beau, elle chante merveilleusement bien. Mais moi, je trouvais que c'était encore plus beau avec toute l'émotion. Et jusqu'à pleurer, pourquoi pas? Et non, on ne peut pas pleurer, chanter. Et ma professeure de chant m'avait dit, alors ça, tu vois, au conservatoire, c'était la porte à côté du conservatoire. Et je suis allée pousser la porte à côté, qui était un cours de théâtre. Et d'ailleurs, c'était une pièce de Tchekhov. Et je me suis assise, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, voilà.
Ça, vous le racontez dans Ensemble, on est plus forte, mais ce fut un déchirement parce que vous ne pouvez pas faire deux choses en même temps. Totalement. Soit le chant lyrique, soit le jeu.
C'est-à-dire que j'aime bien faire les choses à 100%. Donc, je sais que je chantais 3 heures par jour, tous les jours, et le faire pour le faire un peu comme ça, non, c'était ou bien vraiment chanter. C'est, bien sûr que je peux faire les deux, mais ça, c'était trop important. J'aurais voulu le faire comme une carrière où y vivre, respirer le chant. Et donc, non, c'était tout ou rien et j'ai arrêté de chanter.
Vous étiez mezzo-soprano. Est-il vrai que vous rêviez d'avoir plutôt une voix à la Jeanne Moreau et que vous vous entraîniez à graver votre voix?
Ouais, c'est très très juste, très très juste. J'avais une voix plutôt légère et en plus jeune, je parlais un peu de manière un peu plus aiguë. C'était alors, bonjour. Et donc, j'allais toujours à la boulangerie. Bonjour, est-ce que je peux avoir une baguette de pain? Je forçais sur mes graves pour arriver à me... Et ça a marché. J'ai réussi à poser ma voix petit à petit plus grave. Bon, quand même pas...
La voix, c'est très important pour vous. Vous dites que c'est même par là que vous abordez tous les rôles. Qu'est-ce que vous pensez que votre voix révèle de vous?
Je pense qu'on sent toute l'émotion dans la voix. Hein. On ne peut pas trop se cacher. Je trouve même que les ingénieurs du son, quand je finis une scène, je me retourne vers l'ingénieur du son. Parce que je sais si c'est juste ou pas. Plus que tout, c'est ça. C'est l'émotion qui se transmet. Quand je dis que je commence par la voix, c'est comment est ce personnage? Est-ce que il est plus facile pour moi de jouer la jeunesse ou la vieillesse avec la voix qu'avec le maquillage? Évidemment, on peut le faire, mais en réalité, c'est aussi toute une façon d'être. Parce que plus jeune, on parle plus rapidement et on est plus énervé. Avec l'âge, on prend un petit peu de bouteille.
On est plus Jeanne Moreau.
On est plus Jeanne Moreau.
Si je te rencontrais au coin de la rue,
Gaillet, c'est vous qu'on entend chanter sur la bande originale du film Clara et moi d'Arnaud.
C'est Clara qui chante, parce que là, je chante dans un film. Donc, c'est la voix du personnage.
Mais c'est vous, en tant que corps humain,
qui chante,
qui avez prêté vos organes et vos cordes vocales au personnage de Clara, tout de même.
Certes, mais ce ne serait pas tout à fait ma voix si je devais te chanter,
ah,
moi.
Oui. Alors c'est Clara qui chante. Vous êtes la cofondatrice avec Delphine Paul du festival Sœurs Jumelles à Rochefort, puisque pour vous la musique et l'image sont sœurs jumelles. Quelles sont pour vous les plus belles bandes originales de films ?
Oh là là, on parlait de Jeanne Moreau. Je pense que Julie Gim, enfin toutes les chansons Jeanne Moreau, c'était
c'est magnifique. Ouais. Julie Gim.
Ah ouais, évidemment, mais. C'est surtout cette alchimie maintenant qui partout, qui enfin la façon dont ces deux univers, ces créateurs sont très entremêlés. Je pense que les musiciens composent en images, mais aussi ont besoin. Enfin, on l'a vu au moment du Covid sur les réseaux sociaux. C'est une vraie visibilité pour les artistes, pour les musiciens, artistes classiques qui n'avaient pas de visibilité. Les musiciens peuvent s'exprimer. La captation, présentielle, non présentielle, enfin toutes ces. Donc je trouvais intéressant d'avoir un lieu où les musiciens viennent parler de leur rapport à l'image et les réalisateurs, les créateurs d'images viennent parler de leur rapport à la musique.
Une dernière question. J'ai lu que vous étiez amatrice de films de genre.
Oui, toujours.
Ah bah oui, bien moi aussi. Alors, est-ce que vous pourriez recommander un film aux auditeurs ? Et on terminera sur ça.
Un film d'horreur, là ?
Ouah, oui. Je sais que vous aimez La Féline, mais la version de Schrader et pas de Tourneur.
Ah non, moi j'aime la version de Tourneur.
Ah d'accord. Ah, formidable.
Ah non, moi j'aime la version de Tourneur.
Parce que j'adore
c'est
Schrader, mais bon, sa
version de Tourneur qui m'a donné envie de faire du cinéma.
Ah
non, mais moi,
me voilà rassurée.
La quatrième dimension quand j'étais jeune, c'était comme impossible de rater ça. C'était des.
Alors un film.
Un film. Ça c'est tellement difficile. Là, récent, non. Moi je trouve que Dune 2, eh bien, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et puis, moi je suis forcément dans la jeune génération, je trouve que Coralie Forja, voilà, The Substance, si vous n'avez pas vu non plus, c'est super intéressant en tout cas de voir ce qui se passe dans le genre aujourd'hui en France.
Elle est venue nous rendre visite d'ailleurs, c'était formidable. Voilà. Merci beaucoup Julie Gaillet.
Merci.
Votre film Olympe, une femme dans la révolution, est en replay sur la plateforme France.tv.
Pas trop de films d'horreur dedans, hein. Il n'y a pas tellement de scènes de...
Non, c'est vrai, c'est vrai. On voit la guillotine, mais
voilà.
Pas autant que dans Danton de Andrzej Wajda. Un livre de Florence Lautry et Élise Pavie-Gilbert retraçant l'histoire d'Olympe de Gouges paraît à cette occasion aux éditions Flammarion. Vous y êtes interrogé à la fin avec Mathieu Busson, tout comme dans le documentaire de Dominique Elloudi, diffusé le 8 mars prochain sur la chaîne Histoire, Olympe de Gouges, liberté, égalité, féminité. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Etel Alzial et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Gaspard Guy Bourget.